VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 8 octobre 2015. En direct de Washington, Idrissa Seduya et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
République démocratique du Congo, nouvel appel pressant de l'ONU pour des élections crédibles en 2016.
Burundi, Adama Dieng, conseiller spécial de Ban Ki-moon pour la prévention du génocide, se dit préoccupé par la situation dans ce pays.
République centrafricaine enquête sur des atteintes à la sûreté intérieure et incitation à la guerre civile après la récente flambée de violence à Bangui.
Guinée, la Commission électorale nationale indépendante assure que la présidentielle aura lieu comme prévu dimanche.
Kunduz, le président Barack Obama présente des excuses à Médecins Sans Frontières après le bombardement mortel de son hôpital samedi dernier dans le nord de l'Afghanistan.
Quelques-uns des titres de cette édition et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. L'ONU appelle une nouvelle fois le gouvernement de la République démocratique du Congo à garantir des élections crédibles. Cet appel a été réitéré par Martin Kobler, le chef de la mission des Nations Unies en RDC, lors de sa dernière intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le point avec Eddie Sango.
Martin Kobler demande que le gouvernement congolais prenne toutes les mesures nécessaires pour que les élections législatives et présidentielles prévues en 2016 soient transparentes, crédibles et qu'elles n'excluent personne. Des élections qui doivent se tenir dans les délais constitutionnels, souligne-t-il. Le chef de la MONUSCO s'est dit préoccupé par les fortes tensions politiques dans le pays et dénonce un nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral, particulièrement les droits des rassemblements pacifiques. Des violations qui ont été relevées par Human Rights Watch, qui a pointé du doigt des responsables des services de sécurité et du parti au pouvoir impliqués dans l'attaque d'un rassemblement d'opposition le 15 septembre, une accusation rejetée par Kinshasa. M. Kobler demande que l'offensive conjointe avec l'armée congolaise reprenne le plus tôt possible. L'ONU attend de voir des progrès tangibles sur le terrain, soutient-il en réponse à la demande du retrait immédiat de la part de Kinshasa.
La situation au Burundi continue d'inquiéter la communauté internationale. Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, a récemment fait part de ses préoccupations concernant ce pays.
Il est vrai que la tension a quelque peu baissé, mais malheureusement, il y a encore et toujours des actes criminels qui sont perpétrés, des attaques contre des personnes, et l'on ne sait pas véritablement d'où viennent ces actes. C'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui que les Burundais se mettent ensemble et sortent vraiment de cette crise qui a trop duré. Pour quelqu'un comme moi qui connaît le Burundi depuis plus de 30 ans, je puis dire qu'après la signature des accords d'Arusha, après 10 années de vie, je dirais, harmonieuse entre Hutu et Tutsi, nous n'avons pas le droit de laisser tomber ce pays.
Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, au micro de Frédéric Nkunjikidje du service Kirundi Kinyarwanda de la Voix de l'Amérique.
La justice centrafricaine a ouvert une enquête notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et incitation à la guerre civile contre les auteurs des dernières violences à Bangui qui ont fait 61 morts. L'enquête vise à rechercher et à arrêter les présumés auteurs et complices, a annoncé hier soir le ministre de la Justice. Les précisions d'Henri Francisque.
Intervenant à la radio d'État, le ministre Aristide Sokambi a justifié cette décision par le constat de, et je cite, « comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine et de complicité ». Fin de citation. D'après lui, des responsables politiques se sont réunis pour réclamer une troisième transition afin de retarder le processus électoral prévu début octobre et soutenir publiquement ces violences. Des officiers de l'armée, comme le capitaine Eugène Ngaïkosé, le lieutenant Olivier Coudémon, alias Gbangouma, le nommé Mokom et autres, recherchés par la justice centrafricaine pour divers crimes commis dans notre pays, se sont impliqués ouvertement dans tous les différents mouvements pour attenter à l'ordre établi, a souligné le ministre Sokambi. Ces officiers faisaient partie de la garde rapprochée de l'ex-président François Bozizé, renversé en mars 2013 par la rébellion de la Séléka.
En Guinée, la présidentielle pourra se tenir dimanche comme prévu. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, en a donné l'assurance hier. Une réponse à l'opposition qui, faisant état de dysfonctionnements et d'anomalies, appelle au report du scrutin. Les précisions de Michel Joseph.
L'état des préparatifs du scrutin du 11 octobre est largement satisfaisant, a affirmé mercredi Amadou Salif Kébé, porte-parole de la CENI, lors d'une conférence de presse à Conakry. Selon M. Kébé, la CENI se prononcera avant le premier tour sur les réserves émises par les 7 candidats de l'opposition concernant notamment la fiabilité des listes électorales et le retard dans la distribution des cartes d'électeurs. Le porte-parole de la CENI a tout de même reconnu que la distribution des cartes d'électeurs a atteint des niveaux variant entre 45 et 80% selon les régions. Pendant ce temps, la campagne électorale ouverte le 10 septembre bat son plein à Conakry, la capitale, et dans les régions, l'opposition ayant exclu de boycotter le scrutin du 11 octobre. Seuls quelques incidents localisés ont été signalés, les derniers à Nzérékoré, dans le sud-est, la semaine dernière.
Au Mali, alors que se poursuivent à Anéfis les concertations entre la CMA et la plateforme, une délégation composée de techniciens de 5 départements ministériels est arrivée cette semaine à Kidal, dans le Nord. Les détails avec Kassim Traoré.
Depuis les événements de mai 2013, aucune délégation officielle du gouvernement malien n'avait été reçue par les groupes armés. Ces choses faites, c'est mardi 6 octobre, une délégation de l'État malien est arrivée dans la ville de Kidal, accompagnée par la CMA. Le but de ce déplacement est d'évaluer les besoins des populations dans différents domaines de développement, surtout la prochaine réouverture de l'école, car cela fait plus de 3 ans que les enfants de Kidal ne vont pas à l'école. Autre chose, c'est l'aspect sanitaire de la ville. La situation sécuritaire, mais aussi le retour des personnes déplacées ou réfugiées. Les techniciens des 5 départements ministériels sont à pied d'œuvre pour une nette évaluation afin de les soumettre aux autorités. Selon nos sources, une équipe gouvernementale est attendue dans la ville de Kidal pour procéder au lancement de la rentrée scolaire. À noter qu'au même moment, la rencontre conjointe CEMA Plateforme à Anéfis se poursuivait normalement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a présenté des excuses et ses condoléances à Médecins Sans Frontières pour le bombardement qui a fait 22 morts samedi dans un hôpital de MSF à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Selon son porte-parole, Josh Earnest, M. Obama a appelé par téléphone la présidente de MSF, Joanne Liu, et veut que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique. Dans ce cas-ci, c'était une erreur et les États-Unis l'ont reconnu, a souligné M. Earnest. MSF, qui a parlé de crimes de guerre, a pour sa part demandé hier une enquête impartiale et indépendante au terme des conventions de Genève.
Ni la Russie ni l'Irak n'ont averti les États-Unis que des missiles de croisière avaient traversé l'espace aérien irakien à destination de la Syrie, a dit à la voix un officiel américain. Moscou a annoncé hier avoir utilisé 4 navires de guerre en mer Caspienne pour lancer des missiles contre des cibles du groupe État islamique en Syrie. Des missiles tirés de ces navires ne peuvent que passer au-dessus de l'Irak, où les pilotes des États-Unis et de la coalition mènent des opérations contre les djihadistes en soutien aux forces irakiennes et kurdes. Pour l'officiel américain en question, c'est exactement ce genre d'action qui pourrait conduire à un incident ou malentendu. Mais il n'a pas semblé alarmer autre mesure.
Au moins 13 personnes qui assistaient à un mariage ont été tuées et 38 blessées dans un bombardement à Sanban, ville rebelle située à une centaine de kilomètres au sud de Sanaa. Au Yémen, a appris aujourd'hui l'AFP de sources médicales yéménites. Selon des témoins, l'attaque a visé une maison dans laquelle se déroulait une cérémonie de mariage. Elle aurait été menée par des avions de la coalition pro-gouvernementale menée par l'Arabie saoudite. Celle-ci tente militairement depuis fin mars d'empêcher les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran de prendre entièrement le contrôle du Yémen après leur entrée à Sanaa il y a un an.
La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont appelé à l'unité pour changer la politique d'asile obsolète en Europe, confrontée à sa pire crise migratoire depuis 1945, mais aussi à empêcher une guerre totale en Syrie. Ils l'ont dit hier dans leur discours devant le Parlement européen à Strasbourg. Monsieur Hollande a mis en garde contre une fin de l'Europe et un retour aux frontières nationales si l'Union européenne ne faisait pas preuve d'unité. Et la chancelière allemande a estimé que le processus de Dublin, en vertu duquel les réfugiés arrivant dans l'Union européenne doivent demander l'asile dans le premier pays qu'ils foulent, est obsolète.
Enfin, le Parlement grec a voté dans la nuit de mercredi à jeudi la confiance au gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras, ramené au pouvoir par les élections du 20 septembre, après un premier mandat de 7 mois cette année. À peine investi, ce gouvernement va devoir mettre en œuvre les mesures d'économie et réformes promises aux créanciers du pays en échange de son sauvetage financier. Le gouvernement de coalition qui allie le Syriza de M. Tsipras à la droite souverainiste de Panos Kamenos a fait le plein de ses voix, recueillant 155 votes de confiance sur 300 députés. Toute l'opposition, des néo-nazis d'aube dorée aux socialistes du PASOK, ont voté contre.
Et maintenant, la Minute Écho avec Anastasie Toudièche.
Le Sénégal, pays vinicole, c'est le pari de deux Français qui ont installé au sud-est de Dakar, près de la petite côte, le Clos des Baobabs, domaine vinicole qui a donné leur nom aux bouteilles de vin rouge et rosé, 100% made in Sénégal. Cette année, la deuxième vendange a produit 500 bouteilles qui seront vendues 11 euros chacune, soit 7000 francs CFA. Au Sénégal, pays musulman à 95%, 20 millions de bouteilles de vins et spiritueux seraient écoulées chaque année. La transformation de la noix de cajou était le point faible de la Côte d'Ivoire, pourtant l'un des premiers producteurs mondiaux. Un problème en cours de résolution. Le Conseil des ministres du 18 septembre dernier a validé la construction d'une unité de transformation de noix de cajou dans la technopole de Yamoussoukro, usine dotée d'une capacité annuelle de 5000 tonnes au départ. Le marché a été confié à la compagnie vietnamienne Viet Mold Machine. Le fonds d'investissement américain KKR confirme son grand intérêt pour l'Afrique. L'année dernière, le groupe investissait près de 200 millions de dollars dans une société néerlandaise productrice de fleurs installée en Éthiopie. Aujourd'hui, il annonce envisager un investissement de 100 millions de dollars en Afrique d'ici un an dans l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'énergie ou les infrastructures. Le Nigeria servirait de pays base à la société qui projette de rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Maintenant les sports avec Eric Manirakiza. D'abord, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de football qui ont débuté hier en Afrique avec le premier tour aller. Comores, Lesotho 0 partout, Tanzanie 2, Malawi 0, Burundi 1, Seychelles 0, Maurice 2, Kenya 5. Au programme aujourd'hui, Soudan du Sud contre Mauritanie, Sao Tomé et Principe contre Éthiopie, Libéria contre Guinée-Bissau. Et maintenant Eric, le milieu offensif Samir Nasri, aujourd'hui à Manchester City, fait toujours parler de lui en France.
L'ancienne perle de l'Olympique de Marseille, qui est en première ligue à Manchester City, affirmait que même si le PSG mettait 15 millions d'euros annuellement pour ses émoluments salariaux pour l'avoir, il ne signerait pas à Paris car il gagne bien sa vie à City.
Karim Benzema ne comprend pas pourquoi il est souvent remplacé dans son équipe de Real Madrid, malgré ses bonnes performances.
Ce n'est pas l'avis de l'entraîneur Rafael Benitez. Ce dernier confie dans un entretien accordé à la radio Cadena Copé qui devrait rééquilibrer l'équipe lors du derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Et l'entraîneur indique aussi qu'il ne se fait pas de soucis concernant l'agacement de Karim.
Enfin, Lassana Diarra, l'ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui à l'OM, vient de démontrer sa légitimité sur le terrain.
Ah oui, c'est depuis le début du championnat de France de football en Ligue 1. Il est le seul à surnager dans un océan d'incertitudes et d'inquiétudes malgré ses 15 mois d'inactivité.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, et nous vous le disions hier, le candidat Amara Issi a annoncé la suspension de sa participation à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Doufoué Boigny, observe que les conditions du scrutin transparent et équitable, qu'il appelait de ses voeux, ne sont toujours pas réunies. Le député Kramo Kouassi, qui est son directeur national de campagne, explique les motivations de son candidat.
Il a suspendu sa participation au processus en attendant que certaines revendications qu'il a portées jusque-là relatives à la transparence du processus soient prises en compte. Donc, ça n'est pas un retrait de la course, c'est une suspension de sa participation en attendant la réalisation de certaines exigences.
Quelles sont les principales exigences?
Écoutez, les principales exigences sont connues et sont constantes. La commission électorale indépendante, dite CEI, est composée de façon déséquilibrée et ce déséquilibre a été déplié depuis bien longtemps. La commission centrale de la commission électorale indépendante est composée de 17 membres. Les 17 membres, il y en a 13 au moins qui sont proches du président sortant, alors que la commission centrale est l'organe exécutif de la commission électorale. Et des 10 candidats, le mien n'a pas de représentant, M. Bani ou M. Mamadou Koulibaly, pour ne citer que ceux-là et tous les autres, Kakabé, Kwadio Konan Bertin, le député, aucun de ces candidats n'a de représentant au sein de la commission électorale indépendante.
Alors, M. Kramo, pourquoi avoir attendu maintenant à quelques jours de l'élection présidentielle pour aviser sur ces questions?
Je vous ai dit que nous n'avons eu de cesse d'exiger que la commission électorale indépendante soit réformée. Ça a été une revendication constante. Elle a toujours été martelée. C'est parce que le gouvernement a fait la sourde oreille jusqu'à maintenant que Issi Amara a décidé que, compte tenu du fait que les dés sont manifestement pipés, le système est biaisé. Il ne s'agit pas pour lui de cautionner donc ce processus électoral dévoyé.
Attendez-vous un impact particulier de cette suspension?
Écoutez, bien sûr que je souhaite que ça ait un impact sur la suite. Je viens de participer à une réunion, un meeting qui a regroupé d'autres candidats qui portent les mêmes exigences que mon candidat et qui ont exprimé avec beaucoup de clarté leur souci de voir ces exigences-là prises en compte. Sinon, ils aviseraient. Quand ils disent qu'ils aviseraient, j'espère bien qu'ils emboîteront le pas à mon candidat pour que la pression sur le président sortant soit décuplée, pour que nous puissions obtenir des élections transparentes, parce que la Côte d'Ivoire sort d'une grave crise et l'élection de 2015 est attendue pour fournir à la Côte d'Ivoire un président de la République dont la légitimité ne peut pas être contestée.
Le député Kramo Kouassi, directeur national de campagne de Issi Amara, joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Grogne dans les rues de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où les commerçants ont été obligés de fermer hier à cause d'un discours que le gouverneur Julien Paluku allait prononcer lors d'un meeting des partis de la majorité présidentielle de la RDC. Reportage de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
La mobilisation était sous l'ambiance des champs de campagne sur les rues de Goma. Les commerces sont restés fermés toute l'avant-midi ce mercredi. La méthode pour cette mobilisation fait débat sur toutes les bouches et dans les carrefours de la ville. Les taximans moto et certains commerçants rencontrés s'expriment ici.
On nous a interdit de travailler, vraiment. Vous voyez, les marchés vides. c'est regrettable.
Mais le fait de fermer les boutiques, ça montre que le peuple n'a plus confiance à ses pouvoirs. C'est pourquoi ils ont passé à un forcing. Ils ont forcé le peuple à pouvoir venir à leur meeting. Mais ce n'est pas la volonté du peuple.
Devant les membres de ce qui reste de la majorité présidentielle, l'honneur qui vous, après la dernière défection avec les fameux G7, Gilles Paluku, gouverneur du Nord Kivu, lui, confirme son camp dans un meeting populaire où environ 3000 personnes sont venues l'écouter.
Opposition, mais vous attendrez le plus longtemps possible. Comme nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Donc chacun sera dans ce plus longtemps possible. Le plus longtemps possible de la conservation et le plus longtemps possible de l'attente. C'est dès plus longtemps.
L'un des partis frondeurs MSR qualifie ses discours de l'ancienne époque et surtout les méthodes appliquées pour mobiliser la population à venir l'écouter. Patrick Mundeke est cadre dans les bureaux politiques de MSR ici au Nord Kivu.
Aujourd'hui, même en demandant aux gens de fermer boutiques et magasins, vous avez vu, il n'y avait pas 3000 personnes là-bas. Et donc, la population a choisi son camp. Nous, on pensait que Mobutu est parti avec ces méthodes-là. Nous regrettons qu'on les revoie encore dans notre temps. Ce sont des méthodes d'une autre époque.
Charlie Kasereka pour VOA Afrique. Goma.
Des experts de la sécurité du trafic aérien en Afrique réunis à Yaoundé appellent à davantage d'investissements pour garantir des vols en toute sécurité sur le continent. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris par Nathalie Barge.
Osei Bonsou, expert ghanéen de l'aviation africaine, dit que l'Afrique représente à peine 5% du trafic aérien mondial, mais a rapporté 20% des accidents et des décès en 2014.
We need a coordinated effort to be able to build rescue centers where we can.
Nous avons besoin d'un effort coordonné pour être en mesure de construire des centres de secours. Nous pouvons répondre dès que cela arrive. La plupart des pays se servent de leur armée de l'air en tant que centre de coordination. Si l'avion tombe dans l'océan, il contacte l'aviation militaire qui se déplace alors juste pour localiser l'appareil. Et ensuite, comment procédez-vous au secours ?
That is a challenge.
Tel est le défi, a souligné M. Bonsou, ajoutant qu'il faut plus de formation pour la gestion du trafic aérien alors que le nombre de vols ne cesse d'augmenter. Sidi Koné, un expert de la sécurité de la navigation aérienne, dit que des dizaines de petites compagnies aériennes opèrent en Afrique subsaharienne sans respecter les normes internationales. Perdre la trace des avions est un réel problème.
Nous nous retrouvons pour voir s'il y a des points d'amélioration en matière de coordination du trafic entre les centres de contrôle, voir si les moyens de communication qui sont les supports essentiels dans cette communication-là, si ces moyens de communication sont disponible.
Les contrôleurs aériens en Afrique disent qu'il manque de personnel et de matériel de communication adéquat. Les experts ont estimé que le personnel de la circulation aérienne dans certains pays doit compter sur les réseaux de téléphonie mobile. Les pannes d'électricité dans les aéroports et les animaux se promenant sur les pistes sont parmi les principaux dangers et frustrations, ont-ils noté lors de cette rencontre à Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale se sont ouvertes à Lima au Pérou. 188 pays sont présents pour ébaucher des réponses aux défis climatiques et d'une économie mondiale en berne. Le FMI reste inquiet pour la croissance mondiale et il a abaissé mardi ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg, adjoint le directeur de l'équipe responsable de la lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne pour la Banque mondiale, Pablo Feinzilber.
La croissance en Afrique subsaharienne a été plus rapide dans les dernières 15 années que dans le passé. Depuis la fin des années 90, on a observé une croissance plus rapide, mais quand même, il y a des raisons pour s'inquiéter. Il y a un ralentissement de la croissance mondiale après la crise financière de 2008 qui a aussi affecté l'Afrique. Les prix des matières premières, comme tout le monde le sait, ont plongé récemment et ça affecte négativement beaucoup de pays africains qui sont des exportateurs de matières premières. On peut aussi rappeler que la volatilité des marchés financiers affecte aussi beaucoup de pays africains qui ont besoin d'utiliser des financements internationaux qui devient plus difficile récemment.
Il y a quelques jours, la Banque mondiale a publié un rapport sur la baisse de l'extrême pauvreté dans le monde. Donc, elle passe en dessous de la barre des 10%. Mais là encore, l'Afrique subsaharienne est à la traîne. Pourquoi, selon vous ?
Premièrement, laissez-moi vous dire que même si l'Afrique subsaharienne est quand même à la traîne, il y a eu une diminution de la pauvreté en Afrique. La population africaine, plus de la moitié, était dans une situation de pauvreté extrême. Il y a 25 ans, c'était 56%. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 35% de la population subsaharienne qui est dans l'extrême pauvreté. C'est quand même un chiffre très haut. Ça veut dire 350 millions de personnes qui sont incapables de satisfaire leurs besoins essentiels en termes de denrées, de logements et d'autres besoins essentiels. Alors, la question, pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas montré le même succès d'autres pays en développement ? Premièrement, l'Afrique subsaharienne a encore la plus grande partie de la population de l'emploi dans le secteur agricole. C'est 60% de l'emploi dans le secteur agricole. 80% de l'emploi parmi les populations les plus pauvres sont dans le secteur agricole. Et le secteur agricole a eu une croissance qui a été inférieure à celle d'autres secteurs de l'économie. Alors je pense que ça, c'est un défi très important pour l'Afrique.
Pablo Feinzilber, directeur de l'équipe responsable de la lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne pour la Banque mondiale.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'élection présidentielle de dimanche en Guinée. L'ambiance est tendue dans le pays après des affrontements meurtriers le week-end dernier à Nzérékoré entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de son rival Sélou Daniel Diallo. Que faire pour consolider la démocratie 5 ans après les premières élections libres en 2010 ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Retour sur l'attaque qui a fait 22 morts et de nombreux blessés samedi dans un hôpital dirigé par Médecins sans frontières à Kunduz, en Afghanistan. Le président Barack Obama a présenté hier des excuses à l'ONG et dans la matinée d'hier toujours, Médecins sans frontières avait exigé à Genève une enquête de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Cette commission est le seul organe permanent mis en place spécifiquement pour enquêter sur les violations du droit humanitaire, mais il n'a jamais été utilisé depuis sa création en 1991. Nathalie Barge a joint à Paris Stéphane Roch, directeur de MSF France.
De manière étonnante, jamais elle n'a été activée, comme vous le dites. C'est pas par manque de sujets, hein. Il y a eu quand même dans les 20-30 dernières années bien sûr un certain nombre de cas de figure où des attaques ont eu lieu par des belligérants sur des hôpitaux notamment, hein, et des structures de soins. Aujourd'hui, on considère que c'est trop grave ce qui s'est passé. Il y a eu trop de versions différentes de l'administration américaine, de l'OTAN, des gouvernements afghans. Et vraiment, les choses n'apparaissent pas claires du tout. Le tribut payé par les équipes et les patients est vraiment important et parfois, on peut imaginer une trajectoire malheureuse d'un missile et qu'il y ait un certain nombre de pertes civiles et évidemment c'est toujours dramatique. Et là, on passe un cran au-dessus, c'est-à-dire que tout le monde savait ce qui se passait dans cet hôpital, qui traitait des patients. Nous avions informé toutes les parties de manière très très transparente et néanmoins, il y a eu cet incident avec de multiples attaques ciblées sur cet hôpital. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment que la lumière soit faite et que ça puisse servir d'exemple pour renforcer, si on était besoin, la nécessité de protéger l'action humanitaire et de protéger l'accès aux patients à des structures de soins dans les zones de conflit.
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que ce mécanisme d'enquête soit activé ?
Un seul pays signataire peut demander une telle enquête, mais en l'occurrence, il faut que les parties au conflit, et là en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et le gouvernement afghan, acceptent le principe d'une telle enquête.
Et ne craignez-vous pas que les États-Unis ou l'Afghanistan refusent finalement, hein ?
Bien sûr, c'est une hypothèse tout à fait possible. possible. Mais c'est pas parce que c'est possible qu'il faut pas se donner toutes les chances d'y arriver quand même. On va pas relâcher la pression. Il est hors de question d'oublier cette tragédie et de la considérer comme une des nombreuses erreurs assimilées à des dommages collatéraux. On n'est pas prêt du tout à arrêter le combat pour faire reconnaître que c'était un crime de guerre d'après les informations que nous avons et pour qu'on puisse utiliser cette erreur pour les futurs conflits.
Est-ce que jusqu'ici, ce sont seulement des enquêtes internes militaires qui ont été proposées, hein ?
Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu par le gouvernement afghan, le gouvernement américain et par l'OTAN. Mais ce sont des enquêtes internes diligentées par des parties prenantes au conflit et des parties prenantes à cette erreur tragique. Qu'il y ait des enquêtes internes, très bien. Je veux dire, chaque organisation doit s'améliorer et doit regarder ce qui n'a pas fonctionné. Mais ça ne peut pas suffire pour faire état de la vérité.
C'était Stéphane Roch, directeur général de MSF France. Bien voilà, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.